Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Vous êtes bien à bord du pédalo et au programme ce soir, j'ai le plaisir de vous proposer, de vous reproposer un documentaire sonore, Angers, la métamorphose d'une ville. Ce documentaire, réalisé par Mathilde Beauducel, questionne Angers, la ville, l'espace urbain, les souvenirs et les émotions qui l'ont traversée au fil des siècles et des années. Un documentaire donc de Mathilde Beauducel. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles. On se laisse donc avec ce documentaire Angers, la métamorphose d'une ville sur les ondes de Radio Campus.
De cette vague qui reflue des souvenirs, la ville s'imprègne comme une éponge et se dilate. Une description de Zahira telle qu'elle est aujourd'hui devrait contenir le passé de Zahira tout entier. Mais la ville ne dit pas son passé, elle le contient comme les lignes d'une main, écrit à l'angle des rues, aux grilles des fenêtres, aux rampes des escaliers, aux antennes des paratonnerres, aux hampes des drapeaux. Chaque segment se trouvant à son tour rayé d'éraflures, d'encoches, d'entailles, de marques en forme de virgule.
Ces mots sont ceux d'Italo Calvino, extrait de son livre « Les villes invisibles », publié en 1972. Il ouvre une réflexion autour de la ville, des rapports entre les mesures de son espace et les événements de son passé. Si les villes ne se racontent pas, il est possible de ramasser des indices en partant à la rencontre d'individus qui vont nous permettre d'aller plus loin, d'interroger et de déterrer, à la manière d'une chasse au trésor, les bouts d'histoire contenus au coin de ces rues. À Angers, c'est grâce aux souvenirs de ceux qui y ont vécu, mais aussi de ceux qui la peignent, qui l'étudient et la construisent que le récit prend forme. Ce documentaire est une quête de sens autour de la métamorphose de la ville d'Angers. Angers comme point d'appui à des réflexions qui vaudraient pour toutes les villes et pour la ville en général.
Ce qui me frappait étant jeune, quand je venais à Angers avec mes parents, c'est de voir des grues partout. Moi, je suis né dans des villes de la, enfin dans une ville de la reconstruction d'après-guerre. J'ai vécu aussi beaucoup à Lorient, qui est une ville qui a été rasée dans les années 40, hein, suite au bombardement. Et donc, quand j'avais à Angers, pour moi, c'était quelque chose de très, très différent, avec beaucoup de monuments historiques, mais une ville qui évoluait sans cesse.
Oui, je reconnais, ben voilà, mes parents habitaient au 17. Enfin, étant petit, j'habitais là, au rivage exotique.
Quel étage ?
Au premier étage. Mon père était horloger, il réparait les montres, donc en dessous, ici, là, dans la boutique. Et puis, à l'étage, ben, il y avait une cuisine et une chambre. Et puis il y avait des gens qui habitaient les étages supérieurs. C'était vraiment des tout petits logements. Hein. Mais c'était banal, on était habitués à ce genre de petits logements dans ce quartier.
C'est dans la galerie d'actualité, sous le haut plafond d'une des multiples grandes salles du musée des Beaux-Arts d'Angers, qu'a lieu l'exposition de la Donation Bertrand. Parmi cette collection, trois artistes angevins qui ont peint l'Anjou dans la période de l'entre-deux-guerres. Georges Gobeau, Charles et Georges Tranchant. Parmi ces peintures, des représentations d'Angers, des rues transformées, d'anciennes bâtisses détruites et remplacées, accompagnées de photographies contemporaines de ces mêmes espaces, aujourd'hui.
La manière de présenter, c'est évoquer pour les Angevins des lieux qu'ils connaissent peut-être pas très bien, et puis qui ne parle absolument plus, sauf à l'œil très averti du vieil Angers, parce qu'on a franchement du mal à reconnaître, même si on est en plein cœur de ville, près de la cathédrale par exemple.
François Comte, commissaire de l'exposition et conservateur en chef du patrimoine en charge des collections archéologiques et historiques des musées d'Angers.
Charles Tranchant, il allait très régulièrement dans la ville faire des dessins et qu'il reprenait d'ailleurs dans son atelier. Alors il habitait Angers, il a habité plusieurs endroits, à la fin boulevard de Strasbourg, donc pas dans le vieil Angers, mais il est né dans un ancien faubourg, qui est le faubourg Saint-Sanson, dans le secteur à proximité du Jardin des Plantes, où il y avait des très vieilles maisons qui ont maintenant disparu. Donc lui-même était un peu sensibilisé aussi à ce vieil Angers. On voit beaucoup de maisons, beaucoup de rues, parce que lui, il a une formation aussi en architecture.
Le regard expert de François Comte est la meilleure façon d'entrer dans la peinture de Charles Tranchant et de commencer à comprendre à quel point la ville d'Angers s'est profondément modifiée au cours des dernières décennies. Parmi les 8 tableaux exposés, l'un d'entre eux s'intitule « Angers, les quais ».
On n'a pas beaucoup d'indications. Alors, on s'aperçoit qu'on est bien au bord de la Maine et on a la vague silhouette du château, quand même, dans le fond, avec le pont de Verdun. Donc, ce qui permet quand même de situer ce tableau, qui d'ailleurs a figuré dans une exposition, car on a un numéro un peu disgracieux, là dans l'angle, avec numéro 338. Il a été exposé pratiquement après sa réalisation en 1934. Donc à cette époque-là, sur le quai, qui est en fait le quai Gambetta, donc entre le pont de la Haute-Chaîne et le pont de Verdun, on avait d'une part un quai qui descendait en pente douce vers la Maine, et puis du sable avec une grande grue qu'on ne voit absolument pas, puisque maintenant on a droit à une voie sur berge, hein, une voie rapide, quatre voies, et puis de la végétation un peu intrusive là en bordure de Maine. Et puis entre-temps, ben, il y a eu la construction d'un autre pont qui est celui du tramway, qui est venu barrer un peu l'espace avant le pont de Verdun. Si on prend le château, évidemment, des grands monuments comme ça, il n'y a pas tellement de changements, et donc c'est assez facile de s'y retrouver, de même que pour l'hôpital Saint-Jean. Même si on aperçoit quand même quelques changements dans le détail. Non, ce qui pour moi a été compliqué, c'est qu'il y a certains endroits, même si on connaissait la rue, eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver l'emplacement. Alors, il s'agit d'une peinture de Fernand Bertrand, donc le père du donateur actuel, qui représente, heureusement d'ailleurs qu'il a mis cette indication, Maison Jacquet, rue Chèvre. Je veux dire qu'en allant rue Chèvre, j'ai eu du mal à repérer les lieux. Je me demandais vraiment où on était. J'avais cru que c'était dans le fond, on aperçoit comme un clocher, que c'était celui de la Madeleine. En fait, pas du tout. On est en direction de l'Université catholique de l'Ouest. Et ces maisons assez pittoresques, qui font penser des maisons de faubourg, étaient à l'angle, parce qu'elles n'existent plus, d'une rue qui s'appelle la rue Auguste Fontenot, et remplacée par des hangars pas très très jolis d'ailleurs, qui vont eux-mêmes être démolis prochainement pour faire place probablement à une résidence. On peut dire que Charles Tranchant, c'est un témoin. Alors, il ne va pas nous raconter, il ne va pas écrire, mais il va dessiner. Et alors, il a aussi illustré un livre qui est une vraie documentation. C'est celui du chanoine Civray, intitulé « Angers après la tourmente ». Il s'agit de dessins pris sur le vif, juste après les bombardements de juin 1944. Et donc là, on a vraiment toute une série documentaire importante montrant des ruines. Alors, il aime ça, hein, dessiner les ruines, parce que déjà, quand il était soldat entre 1914 et 1918, il en avait fait quand il était dans le nord de la France ou dans l'Est. Mais là, il a voulu montrer aussi des moments qui ont complètement disparu, hein, évidemment, des maisons en ruine qui ont été achevées d'être rasées d'ailleurs, et à la place on a des immeubles modernes.
Grâce aux explications de François Comte, on comprend la nécessité de l'artiste pour faire trace. Il nous permet de récolter un regard sensible et organique sur la ville. Ici, le point de vue d'un homme, un instant éphémère, donne à voir subtilement les variations de la ville face au temps qui passe et propose une alternative à une analyse scientifique et historique. De ce fait, l'artiste est un point de départ pour entamer une discussion avec un historien et un architecte qui apporteront un savoir basé sur une volonté d'objectivité et de mémoire. C'est au pied de la cathédrale Saint-Maurice que je retrouve Jean-Luc Marais, docteur en histoire, maître de conférences et spécialiste de l'histoire contemporaine angevine. Il a passé toute son enfance à sillonner ses rues. Il sera notre guide. Dans le bouillonnement sonore de la ville, de la cathédrale en pleine rénovation à l'impasse du Griffon, en passant par la rue Baudrière et la rue de la Poissonnerie, Jean-Luc Marais nous emmène sur les traces et les souvenirs d'un passé riche. Ces mêmes lieux, peints des années auparavant par Charles et Georges Tranchant.
Il y a des photos qui sont assez spectaculaires parce que on ne reconnaît rien dans ces tableaux. Je pense à une vue d'Angers sur le bord de la Maine où on voit des tas de pierres qui sont alignées sur le quai pour être embarquées ou débarquées. Là maintenant c'est la voie rapide, ça ne ressemble pas. On voit aussi que la montée Saint-Maurice, cet escalier monumental qui donne sur la rivière, a été profondément modifiée parce qu'à son origine, elle tournait à droite en descendant et rejoignait ce grand axe qui passe sur le pont du Centre, le pont le plus ancien, la rue Baudrière, et qui remonte vers la ville. Et on voit là ici un changement tout à fait étonnant de cet escalier qui a pris un caractère monumental progressivement. Il y a eu des tas de projets au cours des années 1920-1930 pour réaliser cet escalier de façon comme nous le voyons maintenant. Mais au fond, son état actuel, il date des années 70. Le haut ressemblait à cela. Moi, quand j'étais gamin, petit, j'allais à l'école dans le quartier et les maîtres, à l'époque, nous conduisaient jusqu'à ici. On partait en rang de l'école et on arrivait jusqu'ici. Et puis, arrivé ici, ils sifflaient et on s'égayait, pourrait-on dire, un peu partout. Et on allait jusqu'en bas. Mais dans le bas, il n'y avait rien encore. Il y avait des maisons. Le passage de la partie basse de cette montée Saint-Maurice, on l'appelait passage du serpent. Pourquoi passage du serpent ? Parce que c'était une toute petite route, qui serpentait jusqu'au bord de l'Our. Quand on le voit maintenant, on voit bien que cette rue minuscule est devenue le prolongement de la montée Saint-Maurice. Alors on a donné à cette montée un aspect monumental. Il y avait même eu des projets avec des plantations. Mais c'est l'idée de donner une vue monumentale sur la cathédrale. C'est ça. Mais si on descend, on verra et on le voit bien sur les tableaux, à l'époque, la montée Saint-Maurice tournait à droite, elle se prolongeait vers la rue Baudrière.
Alors, les changements, ils sont à, je pense, dernière décennie, c'est quelque chose qui date du milieu du XXe siècle, avec la période immédiatement après la guerre, la Seconde Guerre mondiale.
C'est Vax Sarkissian, architecte urbaniste.
En fait, il faut avoir conscience qu'à ce moment-là, et c'est pas valable qu'à Angers, mais dans beaucoup de villes en France, il y a eu un boom démographique, un boom économique, et qu'il a fallu loger beaucoup plus de monde et dans des conditions plus satisfaisantes. Et du coup, ces besoins ont amené des transformations urbaines où on a à la fois construit en ville, dans des emplacements où il y avait déjà du bâti qui existait, plus ancien, qui était parfois, voire même souvent, insalubre, qu'on a donc décidé de démolir partiellement ou totalement et qu'on a remplacé par des constructions plus récentes. Et puis parallèlement, il y a eu aussi la création de nouveaux quartiers sur des terrains qui n'étaient pas urbanisés, qui étaient soit des champs, soit du maraîchage, des espaces en périphérie, qui aujourd'hui sont complètement intégrés dans la ville parce que la ville a rattrapé. Et donc on a eu ces deux mouvements-là.
Par exemple, le quartier Saint-Michel, près du Jardin des Plantes, où il y a des grands immeubles maintenant, où c'était vraiment un quartier très très pauvre. La rue Saint-Nicolas, dans la Doutre, qui était également infect, c'était vraiment des taudis. Tout ça a été détruit, remplacé par des immeubles plus ou moins réussis, mais ça a été une sorte de nettoyage par le vide, puis une reconstruction.
Et parallèlement, les architectes travaillaient beaucoup sur ce qui est maintenant vu comme l'architecture moderne, et ça s'est accompagné de démonstrations avec des édifices qui peuvent se ressembler d'une ville à l'autre et ce qu'on a pu appeler les grands ensembles.
Et puis, alors, il y a eu aussi un grand moment, c'est quand on a décidé de faire passer la route Paris-Nantes, non pas par la ville, mais par le bord de la Maine. Par le bord de l'eau, c'est-à-dire en longeant la Maine, en passant en voie souterraine à certains moments, et en Pour cela, il a fallu démolir tous les immeubles, tout le quartier qui était au bas de cette butte où se trouve la vieille ville d'Angers. Alors, il y avait à la fois des immeubles du 19e siècle très homogènes. Il y avait une espèce de plan d'ensemble qui avait été décidé. Une hauteur de tous les immeubles était, tous les immeubles étaient à la même hauteur. Les façades étaient toutes du même type. Donc, il y avait eu un plan très, très contraignant. On appelait ça le quai royal ou le quai national selon les époques. Enfin bon. Puis le quai Ligny. Alors, Ligny, ça veut dire le quai où on dépose le bois.
On a par exemple eu à La Roseraie ou à Belle-Beille ou à Montplaisir à Angers, donc qui sont plutôt des lieux en dehors de la ville dans les années 50-60. Et puis, parallèlement, il y a eu des quartiers qui ont été reconstruits sur place, comme le quartier Saint-Nicolas dans la Doutre, derrière l'église de la Trinité, ou le quartier Saint-Michel, sur la route de Paris, en quittant le centre-ville à côté du Jardin des Plantes. Où là, on a ce qu'on appelle résorber l'habitat insalubre qui était présent pour construire des opérations modernes.
Derrière ces immeubles, dans l'arrière de ces immeubles, des maisons très modestes, très pauvres, qui se trouvaient donc coincées entre les immeubles qui donnaient sur la Maine et la butte du vieil Angers, la butte de la cité romaine, qui est au-dessus où nous sommes actuellement. Puisque la cité romaine, elle va en gros du château jusqu'ici. Dans le bas de cette rue, ici où nous sommes, à la rue Baudrière, voilà. Enfin, dans tous les quartiers d'Angers, quand on fouille, dans les quartiers du centre, on trouve quelque chose. Et puis il y a eu un autre effet, c'est que le collège du Sacré-Cœur qui est en bas là, s'est peu à peu agrandi. C'était une école, un petit collège, une école primaire, je ne sais plus, et puis qui est devenu collège. Et du coup, en s'agrandissant, ce collège a acheté des maisons. Et du coup, toutes ces maisons, elles ont été démolies pour faire des bâtiments scolaires. Donc ça a changé un peu l'allure du quartier à cause de l'implantation de ce collège. Et donc, la ville a continué, pourrait-on dire, dans le même sens. On va nettoyer, on va faire des immeubles neufs, rationnels, et on va démolir ces maisons qui étaient, bon, du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Bon, il y avait de belles façades, mais l'intérieur était souvent assez médiocre. Enfin, c'est vrai.
Les souvenirs de Jean-Luc Marais redonnent chair à l'ancienne Angers. Il recrée le mouvement, l'agitation des rues telles qu'elles étaient dans son enfance et laisse imaginer l'atmosphère ambiante d'un temps révolu. Pour lui, chaque quartier de la ville est gravé dans les recoins de sa mémoire.
La montée Saint-Maurice, qu'on vient de descendre, enfin, on a descendu la montée, évidemment. On a descendu la montée et la vieille montée arrivait à la rue Baudrière, derrière cette fontaine. Cette fontaine qui est très ancienne, qui s'appelle la fontaine Pied-Boulet, et il y a une source qui l'alimente, qui doit venir de là-haut. Alors maintenant, je pense que c'est l'eau sûrement du service d'eau. Et cette fontaine avait une eau très fraîche. Mes parents habitaient ici, face à la fontaine, et l'été, on allait chercher l'eau fraîche avec une carafe à la fontaine parce qu'elle était plus fraîche. Et il y avait ici beaucoup de commerçants. Ici, il y avait un marchand de poissons, une boulangerie, des cafés nombreux aussi, et puis un boucher. Enfin, il y avait toutes sortes de commerces dans des immeubles qui étaient certains du Moyen-Âge et d'autres du XVIIIe siècle. Alors, c'était une rue très commerçante parce que c'était le grand axe de circulation. Tous les gens qui allaient, par exemple, travailler chez Bessonneau, la grande usine textile d'Angers qui faisait vivre 10 000 personnes, qui se trouve dans le quartier du Mail, le quartier de la place du palais de justice. Toutes ces femmes, en particulier, il y avait beaucoup de femmes parce que c'était du tissage, enfin, il y avait des femmes et des hommes. Tout le monde travaillait chez Bessonneau. Quand on n'avait pas de travail à Angers, on allait chez Bessonneau. Il y avait toujours du travail. Eh bien, tous ces gens venaient des quartiers populaires, en particulier de la Doutre, et ils montaient à pied ou à vélo la rue Baudrier. Tout le monde passait ici, c'était l'axe principal d'accès à la ville en venant de l'autre côté. Donc il y avait beaucoup de commerçants des deux côtés, c'était un quartier très vivant et qui évidemment a changé de style parce qu'il n'y a plus beaucoup de commerces actifs dans cette rue. Enfin, mais c'était à l'époque très très vivant. Toutes les maisons ici ont un rez-de-chaussée qui est marqué par une grande poutre qui était autrefois cachée. Il y avait des boiseries pour cacher un peu tout ça, les devantures étaient plus travaillées, mais ça montre bien que ce n'était pas de l'habitat en bas. En bas, c'était des commerces. Et si on regarde ici, toutes les maisons ont cette allure commerciale qui permettait de faire des boutiques toutes petites qui donnaient sur la rue. Et des deux côtés, c'était un petit peu la même chose. Il y avait plein de boutiques. On trouvait tout. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. L'alimentation et puis des vêtements, de la quincaillerie. Il y avait une pharmacie, plusieurs pharmacies, une herboristerie, enfin, des bouchers bovins et des bouchers chevalins parce que ça faisait partie. Des poissonneries aussi. Enfin, voilà. Donc c'était vraiment, ça grouillait de monde.
les bombardements à Angers, il y en a eu, de manière importante, notamment autour du quartier de la gare. Et ça se voit dans l'écriture architecturale des bâtiments, où on sent qu'il y a ces volumes un peu simples, géométriquement, rectangulaires, avec des fenêtres, avec des encadrements carrés, en béton, l'usage de la pierre, du métal, du verre. Effectivement, ça a pu faire disparaître des tas d'éléments plus anciens, mais par exemple, dans le cas du quartier Saint-Nicolas, dans la Doutre, de l'autre côté de la Maine, eh bien, si vous regardez autour de la Trinité, vous verrez qu'on n'a pas démoli toutes les maisons à pans de bois, toutes les maisons plus anciennes. C'est d'ailleurs ce qui fait l'intérêt d'une ville comme Angers, c'est qu'elle n'a pas vu tout son centre-ville démoli, comme ça a pu être le cas dans des villes comme Brest, ou même à Nantes, dans une proportion plus importante qu'à Angers, où des quartiers entiers ont vraiment disparu.
Là, on arrive à ce qui s'appelle toujours la rue de la Poissonnerie, parce que c'était là qu'il y avait des marchands de poissons, autrefois beaucoup, mais il y en avait, quand j'étais enfant, il y en avait au moins deux ou trois. Mais au-delà de cette rue, vers la Maine, il y avait encore tout un quartier. Les maisons continuaient jusqu'au quai, au bord de l'eau. Donc tout ça a été démoli pour construire, laisser passer cette voie rapide, hein, et donc remplacé par un espace qui n'est pas tellement fréquenté parce qu'il y a quand même de la circulation. Mais enfin, c'est le remplacement d'un quartier qui était traversé par la rue de la Poissonnerie, et puis cette rue continuait jusqu'aux halles, les halles alimentaires. Il y a eu plusieurs déplacements des halles. Il y a eu un premier emplacement plutôt là où on construit d'ailleurs maintenant un bâtiment. Un deuxième remplacement qui était plus haut, qui a été remplacé par un centre commercial qui doit s'appeler Fleur d'eau, je crois. Hein. Et puis maintenant, il y a un troisième emplacement qui revient à celui qui existait dans les années 1850. Enfin, c'est assez amusant, mais ça reste dans ce quartier. Hein. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est un problème, parce que les précédentes halles ont peu à peu décliné avec le développement des grandes surfaces et des commerces à l'extérieur de la ville. Enfin. Donc là, on est dans une petite rue, hein, l'impasse du Griffon, alors qui est une impasse. Vous voyez, c'est l'arrière des maisons qu'on vient de longer par la rue Baudrillère. Et cette impasse, elle devait avoir cette largeur. Et elle se prolongeait par une rue, hein, la rue du Griffon, qui allait jusqu'à la Maine. Hein, là, c'était une rue et là, c'était une impasse. Et il y avait comme ça plusieurs rues qui, de la rue Poissonnerie, allaient jusqu'à la Maine et qui permettaient d'avoir de l'habitat bien serré là, dans ce quartier. Enfin, il y a eu quelques maisons anciennes qui sont restées. Alors, quand tout ça a été démoli, il fallait quand même de l'autorisation des propriétaires. Et il y a eu une chose assez curieuse, il y avait un bâtiment, personne ne savait qui était le propriétaire. Donc cette maison est restée isolée au milieu des démolitions en attendant qu'on trouve le propriétaire pour lui demander l'autorisation de l'acheter et sans doute de démolir.
Donc,
Non, les gens étaient partis progressivement. Le quartier s'était vidé. Quand les maisons ont commencé à être démolies, les gens sont partis. Comme c'était des maisons souvent infâmes, des très vieilles, très mal entretenues, personne n'a tenu à rester très longtemps dans ce désert avec quelques maisons isolées qui restaient. Donc là, c'est la gouache de Charles Tranchant. On voit des maisons, toutes anciennes. Là, on voit là, c'est plutôt, ça a l'air 16e, 17e. Cette impasse avait comme objet de donner aux maisons de la rue Baudrillère ou aux maisons de la rue de la Poissonnerie une évacuation par l'arrière, la possibilité de faire sortir par l'arrière des marchandises peut-être, ou de s'approvisionner par exemple en charbon, hein, ou en bois pour le chauffage. Les boulangers, ils rentrent toujours, et la farine et le bois. Dans ce quartier, il y avait 5 boulangers dans un rayon de 50 mètres. Mes parents étant commerçants, leur principe, c'était d'aller chez tous les commerçants. Donc, il fallait aller acheter le pain dans les 5 boulangeries du quartier. Il y avait même 2 boulangeries qui étaient côte à côte, qui se touchaient. Mais simplement, on allait un jour chez l'une, un jour chez l'autre. Et je reviens à la contrainte que c'est, parce que pour faire du pain, il faut amener de la farine. Donc, il y avait des camions qui amenaient la farine dans des sacs à l'époque. Maintenant, ce sont des systèmes de gros tuyaux qui transporte la farine, mais à l'époque c'était des sacs que l'on montait avec une ficelle, avec une corde, jusque dans le grenier, puis que le boulanger stockait dans le grenier, puis redescendait petit à petit au fur et à mesure de la semaine pour faire son pain. Donc il fallait amener de la farine, il fallait amener du bois pour chauffer. Donc tout ça nécessitait des accès, et je pense que les impasses ou les petites rues comme celle-ci servaient surtout à ces accès techniques. Ce n'étaient pas des rues où on circulait, mais c'était des rues qui souvent sentaient mauvais, parce qu'à l'époque, le tout à l'égout n'existait pas. Les eaux usées passaient dans la rue. Et pour les fosses des WC, c'était des fosses qu'il fallait faire vidanger par des entreprises qui venaient nettoyer la fosse tous les 6 mois, selon le nombre d'habitants de l'immeuble. D'abord, est-ce qu'il y a des villes qui ne changent pas ? Évidemment, il y a peut-être des villes plus passives devant les mutations de la société, les mutations de l'économie. Il y a peut-être des villes moins dynamiques que les villes du Val-de-Loire quand même, hein, parce que la région Pays de la Loire est parmi les régions françaises les plus dynamiques, enfin je pense, au point de vue croissance démographique, activité économique. C'est une région relativement prospère. Enfin, bon. Angers, finalement, est devenue une ville industrielle récemment. Hein, pendant longtemps, il y a eu une sorte de mono-industrie à Angers. C'était le textile, le chanvre, la toile. Puis il y a eu crise de Bessonneau. Bessonneau disparaît. Et à ce moment-là, il a fallu trouver d'autres entreprises. Alors ce qui a été essentiel, ça a été l'installation à Angers de Thomson, qui fabriquait essentiellement des téléviseurs pendant un premier temps. Thomson qui a été le salut d'Angers. Et puis, peu de temps après, Bull. Là aussi, électronique puis informatique. Donc ces deux apports, hein, Thomson qui s'est installé dans la partie nord d'Angers, hein, qui a été ensuite abandonné, bon, mais qui a créé l'emploi. C'était un emploi en particulier pour les femmes. Il y avait beaucoup de femmes chez Thomson. Et puis Bull, des emplois plus techniques, plus élevés, des ingénieurs, pour tout ce qui était ce qui va devenir l'électronique. J'idéalise pas, il y a eu ensuite des fermetures d'entreprises, il y a eu des mutations difficiles, hein. Thomson a disparu devant la concurrence asiatique, enfin les téléviseurs, ils ne sont plus fabriqués en France, enfin voilà. Mais disons que ça a été quand même un point de départ important, hein. Angers a cru un peu plus à son destin industriel, alors que jusque-là, c'était les fleurs, l'horticulture, et puis Bessonneau, qui faisait vivre la ville. On pourrait, en simplifiant, dire qu'Angers a eu du flair, pourrait-on dire, lorsqu'elle s'est vraiment reconvertie vers les nouveaux domaines qui étaient l'électronique à ce moment-là. C'est une ville qui, depuis longtemps, est quand même très, très visitée. Enfin, il y a... Dans les voyageurs du 19e siècle, beaucoup passent à Angers parce qu'on descend la Loire. Alors, soit on descend la Loire en bateau, hein, tant qu'il n'y a pas de chemin de fer, soit on prend le train, hein, qui arrive à Angers en 1848-49. Hein, il arrive de Tours, il arrive d'Orléans. Enfin, ce n'est pas la ligne qu'on connaît maintenant, ce n'est pas la ligne Paris-Le Mans-Angers. Hein, c'est la voie ferrée qui longe la Loire. Donc il y a des voyageurs assez nombreux, le nombre de gens qui parlent d'Angers, la ville noire parce que, alors il y a deux hypothèses, enfin, parce qu'elle est couverte d'ardoises, hein, avec des murs aussi en ardoise. Quand on voit par exemple le château d'Angers, il est en ardoise, enfin il est en schiste, enfin, pour une part. Il y a des bandes blanches pour faire joli, mais enfin c'est quand même de l'ardoise. Donc ville noire à cause de ça, et puis peut-être aussi ville noire parce que c'est une ville qui va avoir une réputation de cléricalisme. Hein. C'est une ville où il y a beaucoup de couvents, beaucoup d'institutions religieuses, il y a une université catholique aussi à la fin du 19e siècle. Tout ça, ça prouve que Angers est une ville qui est connue, enfin, mais qu'on peut comparer assez souvent, et ça arrive quand même qu'on la compare avec Tours, parce qu'il y a une ressemblance. Ce sont des villes qui vivent dans l'esprit de la Loire, hein, c'est-à-dire des paysages qui ne sont pas des paysages, comment dire, monumentaux, hein, où la beauté du paysage, c'est plutôt la brume, l'eau, la végétation qui est quand même assez riche.
Angers est une ville qui a été modulée par son histoire, les individus qui l'habitent, l'évolution de son architecture et sa proximité avec son fleuve. Mais dans la ville du présent restent encore les souvenirs du passé. À la fois dans ses façades du Moyen-Âge, ses pavés de guingois, sa cathédrale, mais aussi dans l'esprit de ses habitants qui racontent leur ville avec une passion invariable. Angers a la richesse d'une ville historique. Son dialogue entre tradition et modernité fait d'elle un espace singulier qui a su préserver ses racines et s'ancrer dans les réalités du XXIe siècle.
je pourrais vous retrouver des citations, même de l'époque antique, disant « Oh là là, il reste plus rien de ce qu'on a connu ».
Toute ville change, seul son souvenir reste intact dans la mémoire. Ce sont ceux qui y vivent qui constituent son âme et l'accompagnent dans sa métamorphose.
La réalité que j'avais connue n'existait plus. Il suffisait que Madame Swann n'arrivât pas toute pareille au même moment pour que la venue fût autre. Les lieux que nous avons connus n'appartiennent pas qu'au monde de l'espace où nous nous situons pour plus de facilité. Ils n'étaient qu'une mince tranche au milieu d'impressions contiguës qui formaient notre vie d'alors. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant, et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives. Hélas, comme les années.
Proust, du côté de chez Swann, 1913.
C'était Angers, la métamorphose d'une ville, un documentaire de Mathilde Bauducel, produit par Radio Campus Angers. Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain à bord du pédalo. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.